Chapitre 12. Après avoir fini de préparer le souper avec sa grand-mère, qui semblait débordée d'énergie depuis la naissance du bébé, Clémence monta à l'étage pour prendre soin d'Arthur. Comme elle devait retourner le lendemain à Rimouski, elle voulait offrir le plus de soutien possible à sa grande sœur. La veille, elle avait rencontré Émile Pelletier pour la première fois. Après un moment de gêne entre les deux, la bonne entente s'était établie et le repas du soir avait été fort sympathique dans la maison des nouveaux parents. De plus en plus à l'aise au sein de cette famille, Émile aimait bien raconter des histoires drôles. Souvent maladroit avec les femmes, le jeune homme avait réussi à passer par-dessus sa timidité devant l'attitude enjouée de Clémence. Il n'avait pu s'empêcher de lui jeter des regards discrets sans oser lui faire la cour ouvertement. Cette dernière, consciente de l'intérêt du jeune homme envers elle, avait résisté à l'envie d'user de son charme. « C'est un beau bonhomme, mais je viendrai jamais me réinstaller par ici. J'ai pas envie de marier un pêcheur, moi. » Alors aussi bien éviter de lui donner des idées, songea-t-elle en poussant la porte de la chambre de Madeleine. Sur le seuil, elle observa avec tendresse son filleul Arthur allongé contre le corps de sa mère. Une telle douceur émanait de cette scène que la marraine ne bougea pas pendant quelques secondes. Madeleine avait les yeux fixés sur l'enfant endormi et caressait le duvet blond en chantonnant doucement. « Me voici, Maddy, » murmura Clémence pour ne pas troubler l'atmosphère feutrée du moment. « Donne-moi le petit, je vais le changer. » Clémence s'avança, les bras tendus, mais sa sœur l'arrêta d'une main. Madeleine fit un clin d'œil et répondit « Laisse, je m'en occupe. J'ai rien que ça à faire, changer une couche de temps en temps. Et je sais à quel point t'aimes ça. » ironisa la nouvelle mère. « T'es pas mal fine depuis 3 jours. Repose-toi un peu. » Clémence éclata de rire. « Je te reconnais bien, ma sœur. C'est toi qui accouches et c'est moi qui dois se reposer. » Madeleine se releva lentement en lui souriant. L'arrivée d'Arthur dans sa vie avait jeté un baume sur la douleur des derniers mois. Chaque fois qu'elle posait le regard sur son enfant, son cœur se remplissait d'un amour sans fin. Clémence replaça l'édredon sur le lit et s'allongea sans plus s'obstiner. Elle observa sa sœur à travers ses paupières à moitié fermées. Les longs cheveux de Madeleine semblaient encore plus soyeux depuis l'accouchement. Elle les portait noués à la nuque, ce qui la vieillissait un peu. Son corps était encore bien enrobé et ses seins tendaient le tissu de sa blouse marine. Malgré la fatigue des derniers jours, la femme dégageait une telle bienveillance et une si grande sérénité que Clémence se prit à croire que la tempête des derniers mois s'apaiserait avec le temps. « Alors ?» s'informa-t-elle. « Comment tu trouves ça, être une maman ?» Madeleine ne répondit pas tout de suite, une grosse aiguille à couche coincée entre ses lèvres. Elle remplaça la couche souillée d'Arthur, qui avait à peine entrouvert l'œil, et leva son regard noisette vers sa sœur, adossée à son oreiller. « Pour l'instant, c'est comme un rêve. Mais j'imagine que ça ne durera pas toujours. Il va sûrement se mettre à pleurer, ce bébé-là. En tout cas, je l'espère, parce que grand-mère dit qu'un enfant qui pleure beaucoup sera beau. Eh bien, s'exclama Clémence en mettant une main sous son menton. « J'ai dû pleurer en masse dans ma jeunesse, moi. » Madeleine rigola en soulevant délicatement les jambes du nouveau-né qui plissa le visage, ressemblant à un petit boxeur. Sa sœur observait la situation avec détachement, réalisant que même si elle pensait avoir un jour envie d'être mère, pour le moment, la vue de son filleul ne faisait guère vibrer de fibres maternelles chez elle. Ça viendrait probablement. Elle étira le bras pour emprunter une cigarette dans le paquet de Freddy sur la table de chevet. « J'aimerais mieux que tu fumes en bas, Clémence. » la sermonna sa sœur. « Pourquoi donc ?» Sans écouter, la châtaine fit craquer une allumette alors que son aîné l'observait avec impatience. « Parce que j'aime pas ça dans ma chambre, il fait chaud, on n'a pas d'air, puis la boucane reste coincée. C'est sûrement pas bon pour le bébé, il a des poumons minuscules. » Clémence hésita en hochant sa tête de gauche à droite. « C'est une vraie maladie chez toi et mon oncle Jean-Julien, la cigarette ?» marmonna-t-elle avec dépit. Elle se releva à demi pour l'écraser dans le cendrier, près de la petite table. Clémence resta silencieuse un moment en se mordillant les lèvres. Elle marmonna sur un ton qu'elle espérait neutre. « Ok, je descends. Mais avant... » Clémence marqua une pause dans sa phrase pour attendre que Madeleine finisse de remettre la couche de coton au bébé. Les yeux sur l'icône de Saint-Gérard Magella, la cadette hésita à poursuivre son idée. « Avant ?» demanda Madeleine en soulevant son poupon pour l'appuyer contre son épaule. Sa sœur parla d'une traite avant de ne plus trouver le courage d'aborder la question. « Vas-tu essayer de présenter ton fils à Simone? » Clémence regretta aussitôt sa question en voyant la détresse figer les traits réguliers de sa sœur. Elle voulait tellement que les jumelles rebâtissent leur relation, mais peut-être que c'était trop tôt, de part et d'autre. Elle s'avança rapidement vers Madeleine pour la serrer contre elle. « J'ai rien dit, laisse faire, Maddie. Je comprends que c'est un sujet trop difficile pour toi. » La nouvelle mère prit place près de sa sœur et laissa passer quelques secondes avant de répondre. La plus grande des deux mit son bras autour des épaules rondes de son aîné et posa ses yeux bleus sur sa bouche à demi ouverte. Madeleine lui fit un sourire sans joie. « Non, non, c'est correct. C'est juste que je pense que Simone ne voudra jamais voir Arthur. On s'était tellement promis de choses depuis notre enfance et ma négligence a fait s'évanouir tant de belles promesses. Puis, eh bien, ça me vire à l'envers, tu comprends? » Alors que Madeleine sentait les larmes s'agglutiner sous ses paupières, elle secoua vivement sa tête. Elle tapota la main de sa cadette et poursuivit. « Mais je vais faire confiance à la vie, comme le répète souvent grand-mère. De toute manière, j'ai pas bien le choix, hein? Je vais plutôt consacrer mon énergie à mon petit gars. Tu fais bien, Maddie. » Madeleine inspira profondément, puis elle détacha sa blouse pour nourrir son petit en se tournant vers la fenêtre pour éviter d'exposer sa poitrine. Elle déposa une légère couverture sur la tête de son bébé. Ensuite, elle plongea son regard dans celui de sa sœur et ses traits se détendirent un peu. « Sais-tu quoi, Clémence? Je peux pas continuer à me morfondre toute mon existence. J'ai Arthur maintenant. Simone veut pas de contact avec nous et elle a le droit. J'ai pas à juger de sa réaction à la tragédie. Un jour, peut-être, elle réussira à m'offrir son pardon. Mais en attendant, je ferai pas vivre ma peine à ce petit gars-là. Il mérite une maman enjouée et heureuse. Tous les jours, je me lève en pensant à Éloi. Je réfléchis à ce que j'aurais dû faire ce matin-là à la place d'aller sur cette plage. Il sera toujours dans mon cœur. Mais j'ai plus le choix d'aller de l'avant, tu comprends? » Clémence, qui constatait les efforts déployés par Madeleine pour avaler son tourment, posa ses lèvres sur sa joue et frotta du même coup celle de son filleul. « T'as bien raison, Maddie. Il mérite juste du bonheur, ce bel enfant-là. Bon, je vais fumer en bas vu qu'ici, c'est défendu. » Je vous rejoins dans quelques minutes, juste le temps de le faire boire. Merci, ma petite sœur. » Clémence ouvrit la porte de la chambre et juste avant de sortir, elle prononça pour la deuxième fois en une seule journée des mots qui n'étaient pas sortis de sa bouche depuis la petite enfance. « Je t'aime, Maddie. » Madeleine laissa échapper le soupir qu'elle retenait et souffla avec affection. « Moi aussi. » Les premières semaines avec Arthur furent remplies de petits bonheurs pour Madeleine. Après avoir compris que Simone ne viendrait pas rencontrer le nouveau-né, elle avait choisi de mettre de côté cette souffrance pour se concentrer sur les joies de la maternité. Son mari était peu souvent à la maison, car les hommes profitaient du beau temps pour continuer à faire de longues journées en mer. Madeleine ne s'épanchait guère auprès de Freddy sur ses espoirs de réconciliation, mais à l'occasion, elle lui faisait part de ses regrets de ne plus avoir Simone dans sa vie. Toutefois, un soir, un mois après la naissance d'Arthur, alors que Freddy était allongé sur le sofa, Madeleine exprima sa peine à voix haute. Excédé de cette ritournelle, le jeune homme répliqua d'un ton sec et emporté « L'homme a dit, c'est à mon tour de plus vouloir entendre parler d'eux autres. Ils nous ont tourné le dos, nous ont accusés de tous les maux sans qu'on riposte. Mais il y a toujours bien des limites à pleurnicher comme ça pour une femme qui sait pas faire preuve de compassion. T'as toujours bien pas fait exprès pour t'endormir ce jour-là. Éloi, tu l'aimais autant qu'une mère, tout le village en convient. Ça fait que je veux que t'arrêtes d'espérer qu'elle vienne voir Arthur, parce que ça arrivera pas. Je peux même pas prononcer ton nom devant Tom, sinon il dit qu'il va me remplacer dans la barge par Émile ou quelqu'un d'autre. Ça te donne une idée de la colère qu'ils ont encore dans le cœur? » En voyant le visage de Madeleine pâlir et ses lèvres trembloter, Palmyre leva une main lasse pour arrêter la charge du jeune père, mais Freddy l'ignora. Comme s'il avait retenu son fiel depuis le premier jour de cette tragédie, l'homme continua à pourfendre le couple La Violette. C'est qu'il se sentait souvent sur la corde raide avec Tom, ne sachant jamais si ses paroles finiraient par servir d'excuse au grand blond pour le remplacer sur son bateau. Depuis que son fils était né, Freddy avait envie de partager son vécu avec d'autres pères, mais il devait toujours faire attention lorsque son beau-frère était dans les environs. Ce qui fait que sur la barge, les deux hommes étaient beaucoup plus silencieux que les années précédentes. Tant qu'à risquer de dire quelque chose qui déplairait à son beau-frère, Freddy choisissait souvent de se taire. Et ce n'était pas dans son habitude, lui qui aimait plaisanter et prendre du bon temps. Ayant terminé sa tirade dans un silence total, Freddy se leva et alla se verser un grand verre de caribou, avant d'ouvrir la porte pour rejoindre Émile, qui fendait du bois à l'arrière de la maison. Dès que le son de ses chaussures s'éloigna, Palmyre tapota la main de sa petite fille, figée, et marmonna « T'en fais pas trop, Maddy. Il est fatigué par la saison de pêche. » La jeune femme ne fit que secouer sa tête sans répondre. Madeleine passa le reste de la soirée à réfléchir aux paroles de son époux. Elle avait négligé les conséquences de la noyade d'Éloi sur lui. Sa peine avait pris tant de place qu'elle n'avait pas songé que Freddy aussi subissait des représailles. Quand son mari vint la rejoindre au lit, elle était toujours perdue dans ses pensées et accueillit distraitement son baiser. Le lendemain matin, après une nuit à tournoyer dans son lit, elle en sortit les traits tirés. S'avançant vers le berceau près de la fenêtre, elle resta quelques secondes à regarder son bébé, dont la tête était tournée vers la lumière du jour. Madeleine se pencha pour embrasser le ventre d'Arthur en soufflant doucement dessus. Et lorsqu'une risette s'accrocha aux lèvres du poupon, la jeune femme sentit un début de paix l'envahir. « Ton papa a raison, mon garçon. Il faut tourner la page. Je te promets de te protéger, mon amour. Puis un jour, je te parlerai de ton cousin Éloi. J'ai plus le choix de laisser ce drame-là derrière moi. » Cette journée s'annonçait douce pour le mois de septembre. En regardant au loin, Madeleine constata que la mer était plus calme que jamais. Elle décida donc d'aller faire un tour au village. Pour la première fois depuis la naissance d'Arthur, elle oserait se promener sur le chemin principal avec son bébé, au risque de croiser des villageoises moins conciliantes. La jeune femme se vêtit d'une robe chemisier bourgogne dans laquelle elle se sentait un peu à l'étroit, mais qui lui donnait un joli teint. Elle noua ses cheveux frisés en une longue natte, qu'elle enroula ensuite à l'arrière de sa tête. Prenant délicatement son enfant contre elle, elle descendit à la cuisine en chantonnant. Palmyre était déjà installée à sa machine à coudre. Ses yeux pâles se promenaient sur le fleuve en contrebas, en songeant à la vie qui s'était déroulée si vite. La vieille femme pesait sur la pédale à une allure rythmée. Quand elle entendit Madeleine, elle cessa le mouvement de sa jambe et se tourna sur sa chaise droite pour lui jeter un regard. Ses cheveux blancs clairsemés étaient noués en un chignon délicat, et son visage ridé s'éclaira en constatant la bonne humeur qu'affichait la nouvelle mère. « Mon doux, t'es donc bien chic ce matin, ma fille? »« Ouais, j'ai décidé d'aller voir mon oncle Jean-Julien au village. Je passerai peut-être au magasin aussi. Si tu veux, je vais t'acheter du fil et je vais prendre du ballonné pour Freddy. Il aime tellement ça. »«
Oh? Oh! C'est une bonne idée. »
La brunette déposa son précieux poupon sur la grande table de bois et entreprit d'emmailloter Arthur dans une légère couverture jaune. D'une main habile, elle lança la couche en tissu souillé dans la grosse chaudière de métal près du poêle. Son regard affectueux se posa sur le moulin à coudre. « Une autre barboteuse, grand-mère? » demanda-t-elle en pointant le petit vêtement devant la femme au corps courbé. Palmyre avait les joues couvertes de taches brunes qu'elle appelait avec humour ses « fleurs d'âge ». Ses cils et ses sourcils presque inexistants accentuaient son regard doux. Ses mains, usées par la vie, papillonnèrent devant son corps. « Laisse-moi le gâter, ce bébé-là. Ça te fera toujours ça de moins à acheter. Ton mari a quand même des goûts de luxe pour un pêcheur. » ricana la vieille femme. « Vous êtes fine, grand-mère. Je sais pas ce que je ferais sans vous. » Le regard reconnaissant de Madeleine se posa sur l'aïeule. « À quoi veux-tu que je serve si je peux pas dorloter ton Arthur? » Puis la bouche édentée de la vieille dame s'ouvrit bien grande dans un large sourire. « J'aime mieux faire ça que des guenilles. C'est plus beau aussi, » ajouta Palmyre en se retournant face à sa machine. Madeleine reprit son bébé pour s'approcher de la grand-mère. Elle posa ses lèvres sur sa joue et murmura avec affection. « Je me plains pas, remarquez. Ça me permet de faire plein d'autres affaires. » Et mon fils est certainement le bébé le mieux habillé du village, comme son père. En tout cas, se moquant ensuite gentiment la nouvelle maman, vous êtes bonne à marier, comme on dit. Arrête avec tes niaiseries, rigola Palmyre en cachant sa bouche derrière sa main tremblante. Les deux femmes riaient aux éclats et juste avant de quitter la maison, Madeleine repassa la tête par la porte entrouverte et lança « Et juste comme ça, grand-mère, Rosario a encore demandé de vos nouvelles. Je pense qu'il aimerait bien ça accrocher son fanal à notre porte. Bon, j'y vais. À tantôt. » Madeleine s'éclipsa sans attendre la réponse de la vieille femme. Cette dernière poussa un petit rire et laissa de nouveau ses yeux s'aventurer au large. Rosario Cyr avait été un de ses soupirants, il y avait de cela très longtemps, avant même son mariage en 1874. Veuve depuis des décennies, lui aussi, l'ancien pêcheur était large d'épaules et de poitrine malgré ses 82 ans. Il avait encore une démarche solide et un rire communicatif. Habitant chez sa fille et son gendre, son vieil ami passait souvent à la saluer lorsqu'il montait à sa terre derrière l'église. « Petite tanante !» ricana Palmyre en se remettant au travail. Mais même si à son âge, il n'était plus question de fréquentation, la vieille femme ne pouvait s'empêcher de se demander comment aurait été sa vie si elle avait épousé Rosario Cyr à la place d'Arthur Gérard. Madeleine déposa le bébé dans son landau aux grosses roues. Elle salua Lucienne qui accrochait sa lessive sur sa corde entre leurs maisons. Le vent qui soufflait souvent sur la péninsule permettait aux vêtements de sécher rapidement, surtout les jours ensoleillés. La vie était beaucoup plus douce en été malgré le travail éreintant de la saison de pêche. Certaines familles survivaient à peine tout l'hiver et des hommes s'exilaient pour travailler ailleurs. Dans le cas des pêcheurs indépendants, comme Bourbeau, Tom, Freddy et quelques autres, les quintaux de morue vendus au marchand général leur permettaient au moins de régler leurs dettes de l'année. Comme elle s'élançait dans le chemin, Lucienne sortit sur son balcon en face. « Tu t'en vas prendre une marche, m'a dit ?» cria la voisine. La jeune femme arrêta d'avancer et se retourna. Les Marcellet habitaient une maison de bois gris construite au début du siècle par Bourbeau, sur la terre léguée par son père. Plus jeunes, les jumelles avaient beaucoup joué avec les cinq enfants du couple, qui habitaient tous encore dans les environs de Lens-à-la-Joie. « Je vais au village !» répondit Madeleine, le cœur battant, comme si le fait de le crier ainsi rendait la chose encore plus réelle. Lucienne leva la main dans les airs, comme pour saluer le geste, avant de retourner dans sa maison. Dans les jours et semaines suivant la naissance du Poupon, la nouvelle mère avait fait des promenades seule ou accompagnée de Lucienne. Mais cette fois, elle était déterminée à se rendre jusqu'au chemin principal avec Arthur. Le cœur du village de Lens-à-la-Joie se trouvait plus bas. Le magasin général, le garage de Noé et le studio de son oncle rassemblaient les habitants, qui se retrouvaient souvent l'été devant ou dans l'un de ses commerces pour converser et profiter du beau temps. Jetant un coup d'œil affectueux vers son fils endormi, Madeleine leva le menton avec détermination. « Il est temps que le monde te voie, mon Arthur. Je te garderai pas caché plus longtemps. Advienne que pourra, comme disait papa. » Palmyre lui avait d'ailleurs rappelé, la veille au soir, à quel point Marcellin affirmait qu'il y avait toujours une solution à un problème. Son père n'était pas du genre à baisser les bras, et c'est en pensant à lui que Madeleine avait choisi de recommencer à se mêler aux autres villageois. Sa grand-mère l'avait convaincue par des paroles justes. « Ton père aurait voulu que tu affrontes la situation, ma belle Maddy. Tu sais bien qu'il n'était pas du genre à se mettre la tête dans le sable. » « Utilise la force qui te vient de la naissance de ton fils pour faire face. » Alors, plus déterminée que jamais, la jeune femme avait aussi l'intention de recommencer à se rendre sur la plage pour aider son époux et Émile. Les hommes avaient commencé à délaisser la pêche sur les bancs au large à cause des grands vents qui entravaient leur travail. Plusieurs pêcheurs suivaient donc les dernières morues migratrices et venaient pêcher dans la baie, près du rivage. Madeleine avait toujours aimé l'automne, quand les barges étaient visibles de la plage. La montagne à l'arrière du village fusionnait avec le ciel d'un bleu pur. Sur la plage de Galais, les villageois levaient parfois la tête vers les collines pour apprécier leur environnement. Peu vivraient ailleurs, malgré la dureté du climat hivernal. « Qu'il fait bon !» murmura Madeleine en humant l'air de la mer. « Attends de voir ça, mon Arthur. Il n'y a rien de plus beau sur la planète que ce coin de la Gaspésie, je suis certaine de ça. » Je comprendrai jamais Clémence qui a choisi d'aller s'enfermer dans un petit logement au sous-sol d'une maison. Mais qu'est-ce que tu veux? continua la jeune femme alors que son fils dormait à poings fermés, sans tenir compte du discours enflammé de sa mère. « Ta marraine a toujours été un peu fofolle. Un jour, ton père et moi, on va t'amener faire le tour du rocher percé et de l'île Bonaventure. C'est un des plus beaux voyages en bateau à faire dans le coin. Il y a même des touristes qui paient jusqu'à 10 $ pour cette excursion, mais pour toi, ce sera gratuit. » La jeune maman éclata d'un rire bref en s'apercevant qu'elle parlait toute seule. Elle poursuivit sa route le cœur léger, mais arrivée à l'intersection de la côte du Sureau, Madeleine sentit son corps se crisper à l'idée de croiser sa sœur. Du coin de l'œil, elle voyait la maison blanche de Simone, un peu plus haut dans le troisième rang. Elle accéléra la cadence de ses pas pour se hâter de se rendre vers le cœur du village. Si la brunette avait eu des inquiétudes face aux réactions des villageoises, elle fut agréablement surprise lorsqu'elle croisa deux d'entre elles à mi-chemin de sa descente. Les femmes s'avancèrent près du carrosse, un large sourire sur les lèvres. « Si c'est pas la belle Madeleine avec son bébé! » « Il était temps, on commençait à penser que tu voulais le garder juste pour toi, ce petit-là. Oh, regardons le gros bonhomme! Il est blond, oui, comme mon frère Jacqueline dans le temps. » répondit Madeleine avec fierté. « C'est vrai, » répliqua la plus vieille. « Il était de la même couleur que les champs de blé quand il était jeune. C'est drôle quand même. Clémence est châtaine, puis vous autres, les jumelles, vous êtes brunes. Oh! » À l'idée d'avoir mentionné Simone et Madeleine dans la même phrase, la villageoise mit sa main sur sa bouche et vint pour s'excuser. Mais la jeune maman ignora la bourde, bien décidée à ne pas se laisser envahir par la nostalgie. Elle replaça la légère couverture jaune sur son fils et demanda, sur un ton enjoué, « Vous descendez à la grave? »« Oui, je peux le prendre? » s'informa l'une des voisines en pointant le bébé. Madeleine hocha la tête et l'autre se pencha aussitôt vers Arthur, qui ouvrit les yeux avant de les refermer. En le voyant aussi sage et aussi beau que le petit Jésus dans sa crèche, sa mère ressentit un immense sentiment de fierté. Elle se remit en marche pendant que les deux femmes l'accompagnaient à ses côtés. Soulagée, Madeleine se dit que son expédition commençait bien. Elle espérait maintenant que Géraldine ne se trouverait pas sur son chemin. Depuis la mort d'Éloi, cette ancienne amie était celle qui semblait lui en vouloir le plus, en omettant sa sœur et son beau-frère, bien sûr. Dans le village, la famille Veillette était connue pour son franc-parler. Et même enfant, Madeleine n'avait jamais la répartie de Simone pour faire face à Géraldine. « Vas-tu recommencer à travailler au vignoble bientôt? » s'informa la plus âgée des voisines. Peut-être. Freddy est déjà allé porter la pêche d'été au magasin, ça fait que je peux encore attendre. Pour l'instant, Émile Pelletier me remplace. « C'est certain que cette pièce d'homme-là est difficile à mettre de côté. » s'exclama celle qui tenait Arthur dans ses bras. « Oh, il a le hoquet. C'est parce qu'il grandit !» annonça l'autre femme d'un ton assuré. Madeleine éclata de rire. Elle se sentait bien, malgré une inquiétude persistante à l'idée de croiser quelqu'un qui s'en prendrait à elle. En passant devant le garage L'Évêque, elle vit son oncle sortir de sa voiture juste devant la grosse porte levée. « Allô, mon oncle » cria-t-elle. L'homme tourna la tête vers la voie et leva le bras dans les airs. Il parla quelques instants avec Noé L'Évêque, lui laissa les clés de sa voiture et s'approcha du trio de femmes et du bébé. « Bon matin, m'a dit. Tiens, tiens, c'est pas mon filleul qui prend l'air du village. Je m'en venais te voir. T'as des problèmes avec ta voiture? » Madeleine reprit son fils des bras de sa voisine. Les deux femmes la saluèrent et quittèrent à regret le chemin principal pour se diriger vers la route de Gaspé, qui menait à la vaste plage de Galais. Elles auraient préféré rester jaser plutôt que d'aller faire sécher les morues, mais la tâche les attendait. Jean-Julien accepta de prendre le bébé le temps que Madeleine replace le coussinet dans le fond du carrosse. Maladroit dans ses gestes, il n'en demeurait pas moins que le célibataire ressentit une grande vague d'amour pour ce poupon au visage rond. Il avait rarement l'impression d'être passé à côté de quelque chose en restant célibataire, mais à ce moment-ci, il doutait de son choix. N'aurait-il pas aimé avoir un ou deux enfants pour l'accompagner dans ses vieux jours? Le problème, songea-t-il, c'est qu'il fallait la femme qui vienne avec, et il n'avait jamais réussi à trouver celle qui pourrait prendre cette place auprès de lui. Quand sa famille lui faisait remarquer plus jeune qu'il lui faudrait bien choisir parmi toutes les prétendantes qui gravitaient autour de lui, il omettait de lui répondre, restant vague dans ses projets. Madeleine repoussa une mèche derrière son oreille et chuchota avec tendresse, « Donne-le-moi si tu préfères, mon oncle. Je vais le remettre dans le carrosse. » Madeleine tendit les bras, mais Jean-Julien secoua sa tête grisonnante. « Je peux le porter un peu? »« Oui, bien sûr, » sourit Madeleine, un peu surprise. Depuis la naissance de son fils, Jean-Julien venait les voir assez souvent, mais il était toujours resté craintif à l'idée de le prendre. Le duo se remit en marche lentement. Madeleine fut rassurée de ne pas se savoir seule pour son arrivée au magasin général, et elle laissa échapper un léger soupir. Son oncle lui expliqua les raisons de sa visite au garage. « Mon auto fait un drôle de bruit, j'ai demandé à Noé de regarder ça. Tu vois que c'est du trouble un char? » ironisa Madeleine, qui ne se fiait pas trop à ses véhicules. « Peut-être, mais je m'en passerai plus. » L'homme haussa ses épaules étroites. Les arbres avaient revêtu leur tenue d'automne, et le duo savourait cette explosion de couleurs autour de lui. Ils gardèrent le silence un bon moment. Même s'ils avaient vécu toute leur vie à Lens à la Joie, l'oncle et sa nièce ne se lassaient jamais de l'harmonie parfaite entre la mer, le ciel et la montagne. Jean-Julien tourna finalement son visage étroit vers Madeleine. Dans le creux de son coude, la tête d'Arthur dodelinait au gré de ses pas. « J'ai un nouveau projet. Je vais commencer à imprimer des cartes postales pour les touristes », annonça fièrement le quinquagénaire. « Oh, des cartes postales? C'est une drôle d'idée. » La jeune femme fronça ses sourcils en attendant des détails. Jean-Julien déplaça l'enfant comme s'il s'agissait d'une porcelaine délicate et expliqua « Je vais prendre des photos de ce fabuleux paysage et je pense que je vais trouver un marché. À l'auberge, ils m'ont dit qu'ils mettraient mes cartes postales en évidence sur le comptoir. Depuis que la route est finie, les touristes sont pas mal plus nombreux à faire le tour de la Gaspésie. J'en ai vendu presque 50 à Gaspé pour les fêtes du 400e. Hein. » Il y a même une agence qui propose des tours organisés de la péninsule. Ça coûte 165$ pour un voyage de 13 jours. Peux-tu croire ça? Wow! C'est certain que ce monde-là doit avoir de l'argent pour acheter des cartes postales, s'exclama Madeleine, qui trouvait que l'idée de son oncle avait du sens, finalement. Arthur commença à gigoter dans les bras de son parrain, et l'homme lança un appel à l'aide muet à sa mère, qui s'empressa de le débarrasser du bébé. Le photographe pointa à la petite bâtisse qui abritait son commerce. « Bon, Maddy, je vais au travail. Merci pour la jasette. Bonne journée. »« Bonne journée, mon oncle. » La femme regarda la silhouette maigre de son parent se diriger vers son studio de photographie. Pressant ses mains humides l'une contre l'autre, elle inspira, fit un sourire à son fils, même s'il avait les yeux bien fermés, et agrippa la poignée du landau. « Du courage, ma fille. Du courage. » murmura-t-elle en faisant rouler le carrosse sur la route de terre jusqu'au balcon du magasin Taillefer.